Aloha, moi c'est Anaël. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute. Bienvenue sur Pépite Mama. On remercie Lidl de t'avoir gâtée. J'espère que tu pourras prendre soin de ta petite famille avec ces super cartes cadeaux. En tous les cas, je te remercie d'avoir fait le déplacement. On commence toujours avec une petite présentation. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ton lieu d'habitation et si tu as des enfants et leur âge.
Alors, je m'appelle Stéphanie, je viens de Bienne et alentour. Mm-hmm. J'ai 41 ans et j'ai trois enfants, trois garçons et un mari avec qui je vis depuis passé 18 ans et je suis mariée depuis passé 6 ans.
Et tes enfants, tes trois garçons, c'est quoi leur âge là qu'on se rende compte?
Alors, Milo, il a 5 ans et demi, c'est le petit dernier. Mm-hmm. Ensuite, on a Noah qui a 8 ans et demi et Léo qui va avoir 10 ans début décembre.
Ok, donc une petite différence entre ces trois garçons. Super. Alors, je propose, tu disais que tu es en couple depuis 18 ans. Je propose qu'on parte de cette base. Mm-hmm. Raconte-nous un peu les débuts avec ton mari.
Alors, il faut savoir que David et moi, on s'est connus à travers mon frère, parce que c'est un ami de mon frère. Mm-hmm. Un jour, je me suis séparée de mon ex. On s'est rapprochés, on a travaillé au même endroit les trois pour gagner des sous.
Ouais. T'as combien de différence avec ton frère?
3 ans.
Ok.
Il est donc pareil avec David. Il est plus petit.
Ah, plus petit.
Plus jeune, ouais. Plus petit, plus jeune. Okay. Et du coup, on en rigole toujours, mais à la place de venir chez nous et puis de prendre la porte du fond à droite, il a pris la première à droite, plus celle du fond. Et voilà, quoi. On s'est très vite... très bien entendu, parce que bien sûr, quand eux, ils avaient 15 ans et puis moi, du coup, 18, mm-hmm. c'était juste hors de question, enfin, les copains de mon frère, voilà. Mm-hmm. Et là, ça s'est donné hyper naturellement, donc c'est juste qu'à un moment donné, on était dans les mêmes groupes d'amis, mm-hmm. et puis voilà.
Et ton frère, il l'a bien pris ou c'était un peu compliqué pour lui?
Mon frère, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vraiment thématisé, je crois qu'il l'a beaucoup pris par la rigolade, parce que c'est des grands... ils adorent l'humour. Mais c'est vrai que, je sais pas trop. Après, c'est resté son ami. Ça fait toujours partie... Enfin, David fait toujours partie de ses meilleurs amis, pardon. Mm-hmm. Et puis, quoi.
OK.
On est passé de juste pote à beau-frère, à tonton, parrain, enfin...
Voilà, c'est clair. Ça a tout de suite pris une ampleur. OK, et du coup, vous vous fréquentez au début, vous êtes hyper jeune. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas d'image de se projeter plus que ça.
Ouais,
quoique,
je crois qu'on savait les deux qu'on voulait des enfants assez rapidement.
OK.
Pour nos histoires personnelles mm-hmm. différentes.
Et à quel moment, du coup, votre relation devient plus sérieuse et puis vous vous dites, là, on va passer à une étape supérieure?
Alors, on voulait d'abord, notre but, c'était de finir nos études. Mm-hmm. Finalement, je me suis retrouvée en 2012 à vouloir me projeter pour terminer ce master. Je voulais des enfants. Enfin, bref, ça commençait à prendre vraiment assez de place dans, mm-hmm. dans mon esprit. Je pense aussi un peu dans mon corps. Enfin, bref, je le sentais que c'était le moment. Mm. Et puis, David, c'est toujours la personne de raison dans le couple. Et puis moi, c'est plus on y va d'instinct, on y mm-hmm. va, enfin voilà. Et donc lui, il me freinait. Et puis voilà, donc on a eu cette période un peu entre deux pendant...
genre on y va, on y va pas.
Facile, 2 ans en tout cas. Et puis, en début 2013... Ben voilà, on s'est dit aussi, ben il y a aussi eu des histoires dans la vie qui ont fait peut-être que tout à coup, on se dise, ben c'est peut-être le moment quand même. Moi, je terminais mon master en enseignement spécialisé. Et puis, ben finalement, voilà, je me suis retrouvée à présenter mon mémoire enceinte de 8 mois. Donc voilà.
Donc tu tombes enceinte pendant ton master.
Voilà, exactement. Ouais.
Et comment tu le vis cette première grossesse ?
Alors, assez bien, vraiment tout se passe, franchement je peux rien dire sur les trois grossesses, alors bien évidemment reflux gastrique, nerf sciatique qui embête.
Ouais, des petits mots en fait habituels.
Mais sinon rien d'extrême. J'ai pu travailler quand même assez longtemps, surtout la première grossesse.
Et est-ce que tu aimais être enceinte ? Est-ce que tu aimais te voir enceinte, te projeter ?
Bien évidemment que le corps il change, que voilà, il y a des choses, une des choses que j'ai le plus détesté, c'est vraiment cette place que prend ce bébé, puis de se dire que ah, tu peux plus mettre tes chaussures, tu peux plus bouger comme tu veux. Mais au-delà de ça, franchement, je pense que le fait d'avoir aussi des grossesses qui étaient simples, j'ai vraiment aimé être enceinte. Voilà. Cette connivence avec ce bébé, comme il bougeait, l'évolution,
plaisait,
enfin bref, je trouvais ça vraiment magique. Et puis je trouve que c'est finalement un privilège aussi, en tout cas pour ma vie, mon histoire.
Ouais. Ouais. Et David, du coup, comment il l'a pris cette première grossesse ? Il arrivait à se projeter ? Il était content ou comment il le vivait ?
Ben, comme il l'est, donc de manière assez pragmatique, c'est-à-dire que bah, je lui disais, ah, regarde, il bouge, viens vite. Puis il me disait, ouais, mais enfin, à chaque fois déjà qu'il arrivait,
il arrêtait.
Il arrêtait de bouger, ou il ne le sentait pas. Et puis il me disait, mais tu sais, moi, ma relation avec lui, je vais commencer à la construire quand je l'aurai dans les bras pour la première
fois. Très terre à terre, quoi.
Donc pour lui, c'était clair, car il arrivait à se projeter. Mais en même temps, ben, la grossesse, voilà, quoi. Il disait, ben, je ne peux pas trop... Pareil, le cours classique, en plus, parce que c'était premier bébé, donc tu ne connais peut-être pas forcément tout ce qui se fait ou pas. Donc, c'était le cours de préparation à l'hôpital. Et puis, ben, voilà, même là, il disait, ouais, mais enfin, ce qu'elle me raconte pour l'accouchement, pour moi, ben, enfin, je verrai quand ça sera l'accouchement.
Ouais, ouais.
Voilà.
Bon, écoute, et alors ? Ben, à un moment donné, tu accouches du premier.
Voilà, exactement.
Comment ça se passe ces premiers instants, semaines de jeunes parents ?
Ben, je crois qu'on l'a assez bien vécu. Alors, dans le couple, dans le fait, ben, voilà, pour nous, c'était magique de se retrouver les trois. Il avait pu prendre des vacances parce qu'il n'y avait pas encore les 10 jours de congé
paternité.
J'imagine
bien qu'il y a 10 ans, ouais.
Mais il avait pu, il avait gardé toutes ses vacances comme on accouchait fin de l'année, donc il savait. Et puis je crois qu'il avait 3 semaines ou 4 semaines. Donc c'était assez tranquille pour nous. Après effectivement, ben voilà, on a des grands-mères qui étaient très présente ou voulait être très présente pour voir le bébé, pour voilà ma maman qui s'inquiétait énormément pour moi, enfin voilà, qui prenait quand même finalement soin de nous, mais en même temps ça prenait beaucoup de place. Et puis ça, c'est vrai que c'était parfois typique aussi l'organisation de Noël, quand ce bébé il a 3 semaines, puis que les familles elles veulent toutes faire le 24 décembre, et puis enfin voilà,
et que toi, c'est
genre
le dernier
de choses
où vraiment à ce moment là
sérieusement il n'y a pas d'autre chose plus importante dans la vie. Donc voilà, donc nous on était vraiment décalé par rapport aux problèmes
le problème
de notre entourage. Et puis bon, bah après la classique, quoi, on se retrouve quand même seul malgré tout. Après, nous, on avait peut-être, c'était une chance comme une malchance, si on peut, enfin malchance, un inconvénient, c'est-à-dire qu'on était les premiers dans notre entourage d'amis à avoir un enfant. Donc oui, certes, ben peut-être qu'on se voyait moins parce que ben voilà, nous ben oui,
vous étiez plus dans la même vie.
Bref, mais par contre, ben on avait aussi cette chance que ben les amis, ils adoraient Léo, enfin voilà. Et puis du coup, ben on a aussi pu bénéficier. Moi, je me souviens une des premières fois où je voulais retourner chez le coiffeur, ces deux amis proches qui m'ont dit "Oh, mais t'inquiète, nous on va promener la poussette avec Léo dedans, pas de souci." Et puis ça, c'est vrai que c'était aussi quelque part
c'est sympa,
chance,
ouais. Donc, même si les gens, du coup, ils peuvent pas tellement comprendre ce que tu vis, mais tu peux avoir l'avantage d'avoir un peu plus d'aide que si tout le monde vit la même chose au même moment, parce que là, du coup, tout le monde
tout
est dans le dur.
Oui.
Bon. Du coup, Léo, c'est un bébé comment ? C'est un petit garçon qui est comment ?
Alors, c'est un petit garçon qui est en bonne santé, qui va bien. Après, elle a aussi plus ou moins la classique des espèces de coliques. Voilà, où on ne sait pas trop quel mal-être il a. Et puis, où on passe des fins de soirée assez... Ouais. Enfin, fin de vraiment de journée. Donc, vers 22 jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, complètement éveillé,
ouais, où t'as juste envie dans de te
coucher, voilà, où tu t'échanges, enfin voilà, je vais me coucher à 8h, après j'allaite à 11h quand il se réveille, toi tu le portes après, enfin bref, donc voilà. Mais au final, je trouve que c'était aussi assez naturel, et puis, voilà quoi, il a fait sa place dans, au sein de notre couple, qui est devenu une famille, et puis et je trouve que on a vraiment eu de la chance, quoi.
Ok. Et du coup, à quel moment vous avez envie de lui apporter un petit frère ou une petite sœur ?
Assez rapidement, puisque Léo et Noah, ils n'ont que 19 mois d'écart.
Même très rapidement.
Ouais. Effectivement. Et puis, une fois enceinte, je me souviendrai toujours, on s'est regardé avec David et on s'est dit, on est complètement fous, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est pas
trop
possible.
Tard.
Voilà. Et le truc où tu te dis, non, mais en fait, maintenant, la machine est lancée.
Ouais. Donc, il avait quoi, un an, Léo ?
Oui, ouais, même pas. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, il avait 9. Un peu plus, mais on l'a su très vite.
Okay.
En plus, on a toujours eu de la chance au niveau, je crois qu'on est hyper fertile, donc
c'est ça
pas fonctionnait
un
à chaque fois, plus ou moins du premier coup.
Deuxième grossesse assez rapprochée, donc ton corps, je pense qu'il comprenait complètement ce qui se passait, il était plus ou moins habitué. Par contre, toi, c'est un autre game, t'es enceinte de deuxième avec un premier tout petit.
Tout à fait.
Du coup, grosse fatigue, j'imagine.
Tout à fait. Oui, alors grosse fatigue. En plus, au niveau du travail, l'enseignement spécialisé, on choisit pas toujours quel jeune on accompagne. Mm-hmm. Plus, j'ai des ados, donc c'est quand même des des gros challenges aussi au quotidien. Et puis, je travaillais plus ou moins entre 50 et 60%. Mm-hmm. Je me souviens plus trop, mais plus ou moins. Et je rentrais du travail, effectivement, récupérer Léo, voir que tout fonctionne. C'était quand même bien différent. Tout le monde, la première grossesse, t'as vraiment le temps aussi de te reposer. Enfin, si tu es consciente du fait que c'est important de te reposer ou bien qu'après, t'auras moins le temps. Mm-hmm. Mais après, on a toujours essayé de faire en sorte de se laisser guider par la vie, en fait. Donc, le rythme de Léo, ça devenait mon rythme, ou bien, on essaye plus ou moins. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je crois qu'on a toujours fait assez confiance à la vie. Et puis,
Et puis, tu t'adaptais avec la phase de vie où tu étais à ce moment-là.
Bien sûr, tout à fait.
Et du coup, est-ce que tu as su que c'était un petit garçon pendant la grossesse ou c'est surprise ?
Aussi, okay. Oui.
Donc ça, t'allais être maman de deux garçons, là.
Voilà, oui. Après la surprise de la sortie du gynécologue, où on s'est regardé avec David et puis on s'est dit, ça va ? Ouais, ça va. Et puis après, toi aussi, t'as eu un petit coup de, ça aurait été cool une fille.
Ouais.
Et puis après, tu relativises
à autre chose,
bien
et puis
sûr,
c'est humain de ressentir des choses, il faut les accepter aussi.
Tout à fait.
Et comment ça se passe, du coup, cet accouchement, cette...
Donc, il faut savoir que déjà, Léo, c'était hyper rapide, parce que j'étais quand même provoquée par des ovules.
Ok.
Parce que j'avais perdu les os et que rien se passait. Mm-hmm. Donc, Léo, j'ai eu... Alors, tout est relatif au niveau du travail, mais pour moi, de grosses contractions, a beaucoup bougé mon corps, etc. J'ai travaillé pendant 3h30.
Ouais, ce qui est rien.
Et du coup, on m'a pas vraiment prévenu. Enfin, qui peut prévoir, mais je crois que c'est quand même assez courant aussi que, si la première grossesse, c'était aussi assez. Parce qu'après, j'ai pas eu de péridurale et rien pour les trois.
OK.
Donc, c'était quand même assez, la sortie du bébé était assez naturelle. Et, j'ai pareil perdu les os, rien. Là, on s'est pas stressé parce qu'on s'est dit non, mais on a le temps. La dernière fois, tu te souviens,
il y a 48 heures, 24 heures.
On s'est tapé une nuit à l'hôpital pour rien. Enfin bref, ce genre de choses où tu relativises aussi tu apprends de la vie. Et donc, on a amené tranquillement Léo chez mes parents. Et finalement, c'est allé très, très vite parce que j'ai travaillé pendant 40 minutes. Je me dis, j'aimerais bien aller dans le bain. Puis elle m'a dit, je crois que c'est trop tard, tu n'arriveras pas à bouger.
Donc, tu arrives à l'hôpital et là, quand tu arrives à l'hôpital, tu as déjà des contractions ou pas encore?
Non. Okay, non. Donc. Ben, pareil, là, j'ai été sauvée par l'envie. Je ne sais pas si Noah l'a senti ou bien si moi, j'ai réussi à juste me décontracter, à lâcher prise au bon moment. Mais on était prêt à mettre dans l'intraveineuse la fameuse hormone
là, l'ocytocine
qui provoque. Ouais. Et puis... tout à coup, je lui fais waouh, c'est hyper puissant là, c'est déjà l'hormone. Puis elle me dit non, j'ai rien mis dedans. Attendez, je vais vous enlever tout ça. Puis bref, du coup, c'est parti tout seul.
Ok,
puis, ouais, vraiment.
Et 40 minutes après, une fois que tes bébés ils ont décidé de s'y mettre,
oui, je crois
ils
n'ont
pas le time quoi.
Ouais, je crois que effectivement.
Et du coup, comment ça se passe alors cette vie à quatre?
Ben, ça se passe bien les premiers mois. Après, pendant mes congés maternité, je crois que j'ai aussi toujours eu de la chance de vraiment pouvoir lâcher prise, vivre à mon rythme. Mm-hmm. Alors j'ai pas fait, comme on entend de plus en plus, 40 jours alité ou quoi que ce soit, mais je crois que je me suis quand même pas mal écoutée. Mm-hmm. J'ai écouté aussi le rythme de mes enfants, mm-hmm. parce que tout à coup, t'as plus 3 rythmes, t'en as 4 à suivre.
Ouais, ouais.
Et puis, Et finalement, je crois que comme dans toute tribu ou communauté, t'arrives quand même un peu à t'adapter, à avoir des rythmes plus ou moins, pas identiques, parce que ça, tu n'y arriveras jamais, mais...
Il y a quand même des choses que tu essaies de les mettre en symbiose, quoi,
voilà,
c'est ça.
Exactement, tout à fait.
Et comment Léo a pris la naissance de Noah? Est-ce que, avec le peu d'écart, ça faisait presque des jumeaux, quoi, finalement, en grandissant, ou...
Le dernier mois de grossesse, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Vraiment, c'était pas violent, mais il était fâché contre ma mère. Enfin, il y avait vraiment un truc où on sentait presque limite de la colère.
Ouais.
Et du coup, en fait, à l'accouchement, c'était le grand frère, il était fier. Après, je l'ai beaucoup inclus pendant l'allaitement, pendant tous ces moments où j'étais en train de coucouner, de lever Noah.
Noah, ouais.
Et en fait, en grandissant, toujours cette évolution où tu te dis, le petit, tout à coup, il commence à bouger. Donc, le grand, il est plus menacé, entre guillemets, parce qu'il va lui prendre ses jouets. Donc, il y avait ces conflits-là. Mm-hmm. Mais de manière générale, effectivement, ils avaient une belle relation. Mm-hmm. Ils ont toujours une belle relation. Même si ça a évolué différemment pour le TDAH que Noah a, en fait. Mais
est-ce que tu veux nous en parler un peu ou c'est quelque chose d'important par rapport à ton histoire?
Alors oui, c'est important par rapport à mon histoire parce que effectivement, peut-être je finis vite juste. Donc par rapport au fait que Léo, il est vraiment un grand frère protecteur. Mm-hmm. Parfois trop, même il prend. Parfois, on lui rappelle, lui dire, mais tu sais, c'est bon, là, tu peux être juste son frère, mm-hmm. ça suffit. Nous, on est ses parents, on s'occupe mm-hmm. de lui pour ça. Toi, t'as pas besoin de veiller à ça, c'est OK.
Il a pris ce rôle vraiment à cœur.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Et puis, ce qui est difficile aussi, c'est les périodes de maladie. Je me souviens on n'a pas été diagnostiqué, mais je pense qu'on est passé par une dépression parentale.
D'accord. Donc les deux?
Vraiment les deux en même temps. C'était Noah avait 4 mois, et puis pendant 6 mois, ils étaient tout le temps malades. Mais vraiment, tu avais toujours la classique aussi, jours de répit, puis bam, ça recommençait. Puis avec le travail, c'est
extrêmement
frustrant aussi quand t'es là. En fait, mon enfant, il est encore malade.
Ouais. Et puis, tu dors pas, tu te sens que tu culpabilises. Et
tout
puis,
à
t'as
fait.
Plus d'énergie, quoi.
Exactement, ouais. Exactement. Et puis, ça, on se l'est dit vraiment tard, en fait. Je pense, une année après, on s'est dit, mais tu te souviens, cette période? En fait, on était sûrement en dépression parentale, quoi. Et pour dire, David avait même dit à sa mère, je me sens épuisée. Et puis pour qu'il dise ça, je crois que c'était vraiment... Ouais.
Ouais. Vous étiez en mode survie, quoi.
Ah,
limite robot.
Carrément. Ah,
pas le temps de... Enfin, si tu réfléchis à ta situation, tu ne te lèves plus, quoi.
Ouais, exactement. Okay. Exactement.
Donc, ouais.
Donc, il y a eu ça. Mm-hmm. Et puis après, quand Noah, il a eu plus de 3 ans, en fait, tout ce qui vivait au niveau émotionnel, qu'un enfant de 3 ans vit par la découverte, par la frustration, par les peurs, toutes ces émotions. Lui, il avait régulièrement, quand c'était des émotions plus fortes, il avait vraiment des grosses décompensations émotionnelles.
Donc, d'accord.
C'était des grosses crises de larmes. Et je me disais, mais ça me paraît bizarre. C'était vraiment long, ça allait 20 minutes, parfois une demi-heure. Et puis, de fil en aiguille, le temps que tu réalises vraiment que ça ne joue pas, que... Moi, je disais toujours, mais en fait, je crois qu'il y a de la souffrance là derrière. Ce n'est pas juste, il a besoin de vivre ses émotions, mais il y a comme de la souffrance.
Tu sentais qu'il y avait quelque chose, en fait.
Noah, c'était un enfant qui était assez agité au niveau du sommeil.
Okay.
Il a aussi fait des terreurs nocturnes. Après, terreurs nocturnes, clairement, il réveillait toute la maison. Mais le pédiatre, il nous disait, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on a eu cette période aussi.
C'est difficile, terreurs nocturnes, parce que tu ne peux pas faire grand-chose. Et effectivement, il n'y a pas genre, il a fait un cauchemar, puis tu le calmes. Là, limite, tu le touches, c'est pire.
Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, pareil, ça va quelques semaines jusqu'à ce que tu réalises, que tu en parles au pédiatre, etc. Enfin, bref. Donc, il y a eu vraiment toutes ces expériences. Et puis, c'est là que tu réalises qu'en fait, quand tu as un enfant qui est, parce que presque 4 ans et demi... 4 ans et demi plus tard, on a le diagnostic qui tombe. Donc, ça prend quand même du temps. Et quand t'as un enfant neuroatypique, en fait, tu réalises que les gens, ils vont toujours te regarder différemment ou te prendre pour limite un extraterrestre. Bref, tu dois t'imposer, en fait.
Et à quel moment tu décides de faire des tests, en fait? Qu'est-ce qui...
Déjà, on a contacté un pédopsychiatre pour l'entrée à l'école enfantine, donc la 1H, parce que t'as beau être dans le métier...
Vous dites 1H chez vous?
Oui.
Facebook, ça correspond à quoi?
Armos.
On dit 1P, primaire.
Ah ouais, parce que 1P, en fait, c'est drôle. Dans le canton de Berne, en fait, on nous a vraiment... Donc là, je parle en tant qu'enseignante. On nous a vraiment dit P, ça n'existe plus, en fait.
Ah, alors non, parce dans le canton de Vaud, on est toujours au 1P.
C'est harmonisé, du coup. C'est trop drôle.
Ah, donc okay.
Ça, je ne savais pas. Je connais plein de variations et différences, mais celle-là, je la connaissais
pas. Du coup, les gens pourront se rendre compte.
Voilà.
Un H, 1P, c'est la même chose.
Voilà, tout à fait.
Donc, oui.
Du coup, nous, on se disait, au niveau cognitif, il est vraiment prêt, mais au niveau affectif, pas du tout. Mais en plus, il aurait été dans la même classe que Léo.
Léo aurait été en 2P,
exactement. Du coup, il faut savoir aussi que, on parle français à la maison, mais on est dans un village suisse-allemand, à côté de Bienne, et du coup, scolarisation en allemand. Donc, il y avait aussi ça, et... de fil en aiguille, donc on est allé chez ce pédopsychiatre. Et puis, il nous a juste dit, mais pour moi, il n'y a aucun inconvénient ou aucune barrière à ce qu'il ne soit pas scolarisé.
Oui, il n'y avait pas de frein à ça.
Maintenant, vous êtes les parents, vous le connaissez au mieux et c'est à vous vraiment de savoir ce qui est juste pour lui. Et puis, on l'a inscrit et au final, ça s'est très bien passé.
Il était avec son frère aussi.
Voilà,
je pense
exactement.
Sincèrement que ça change la donne.
Et ils étaient quand même, 4 ou 5 romans dans les deux classes. Sur les 18 élèves ou je ne sais plus combien. Donc, c'était quand même un bon paquet. Et ils ont des cours de, comme les allophones ont français langue seconde pour l'allemand. Et on remarque que plus il rentre à la maison, que ce soit des journées de garde, donc école plus garde, parce que le lundi, c'est souvent, et mardi, début de semaine en plus, c'est souvent des grosses journées pour les enfants, pour nous aussi, mais ou quand on les récupère
ça vers 17h,
18h, c'est l'explosion. Et puis, Léo, c'était toujours à peu près... c'était gérable.
Ouais.
Et puis, Noah, ça partait de plus en plus.
Okay.
Et toujours cette histoire, cette notion de, pour moi, de souffrance, où tout à coup, David commence aussi à en prendre conscience davantage, parce qu'il remarque que ça joue peut-être moins et puis que ce n'est pas forcément aussi évident qu'avec Léo. Et puis, Noah entre dans l'école obligatoire, donc en 3P. Et là, vraiment, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Ben, il y a la contrainte des devoirs. Alors, je découvre ce que j'ai toujours découvert en tant que pro, donc d'entendre les parents dire « les devoirs, c'est l'enfer ».
Ouais.
Et là, je me dis « non, mais c'est pas possible, moi, je tiens pas ».
Ouais. À l'école, ça se passait bien dans
comme
l'école
ça. Oui,
ouais.
Alors oui, ça se passe bien. Voilà, c'est une maîtresse qui est très structurée, donc ça lui fait du bien parce que, ben voilà, plus il y a de structure, mieux c'est. Fait, ce que tu fais, c'est que ben, tu continues de voir le pédopsie, donc on fait ça. Et puis, on a commencé aussi l'équithérapie, donc il travaille avec les chevaux.
Ok.
Plus la psychomotricienne, et franchement, voilà, ça l'aide. On voit, la psychomotricienne dit régulièrement qu'il fait des progrès, donc ça avance. Mais c'est quand même toujours très prenant pour la famille.
Mais du coup, donc, t'as tous ces professionnels qui le suivent depuis des années, mais aucun n'a vraiment voulu poser un diagnostic?
Alors après, ben justement, de fil en aiguille, j'en parle régulièrement avec la psychomotricienne.
Ouais.
Et elle me dit, mais en fait, vous êtes les parents. Elle me dit, mais moi, j'entends. Quand les parents me disent quelque chose, j'entends. Donc, si vous sentez le besoin d'aller faire un bilan, ben, faites-le.
Okay.
Et puis, ben, petit à petit, l'idée mûrit dans notre tête. Et puis, ben, le temps que tu l'inscrives, les listes d'attente, etc., il a passé les bilans ce printemps.
OK.
Donc, voilà. Et diagnostic qui tombe en juin.
OK. Ah, c'est long.
Donc, oui, c'est long.
Waouh. OK. Oui. Bon. Donc, du coup, il y avait quand même... En fait, ça a pris... Noah, il a quand même pris beaucoup d'énergie à la famille. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein, c'est vraiment juste factuel. Ben, pendant toutes ces années, est-ce que, du coup, Léo a réussi quand même à trouver sa place, à avoir une évolution plutôt facile, ou il se mettait au contraire et il vous faisait voir aussi toutes les couleurs pour montrer qu'il était là?
Alors... là, ouais. Léo, là, ces derniers temps, pour lui, c'est assez pesant, ouais.
Bon. Et du coup, bah, toutes ces années qui passent, qu'est-ce qui vous pousse à faire un troisième à un moment donné?
Ben, en fait, moi, ça faisait aussi pareil depuis que je pense que Noah avait peut-être un peu plus. Avant une année, je me disais non, mais en fait, moi, j'aimerais un troisième. Je trouve ça trop beau.
Et du coup, à quel moment tu tombes enceinte de Milo?
Question que je n'attendais pas à avoir. Attends, je dois calculer. Il est né en mai 2018.
Alors, plutôt par rapport à Noah. Noah avait quel âge à ce moment-là?
Oui. Donc, Noah, il avait 2 ans et demi.
Ok, je crois que ça aide plus les gens à se rendre compte.
Juste 2 ans. Ouais, juste 2 ans, en fait.
Ok, donc tu tombes enceinte de Milo quand Noah avait 2 ans.
Ouais.
Comment ça se passe, troisième grossesse avec 2 enfants
ben devant. Ça se passe assez bien. Ben pareil quoi. Il y a plein de choses que tu dois plus organiser parce que ben t'as déjà tout, parce que voilà, donc il y a ça en moins. Et puis en même temps, ben tu sais que t'en as quand même 2 à gérer. Et puis que voilà, que c'est fatigant. Et Milo, je me souviens, la grossesse, j'ai été fatiguée jusqu'à passer 4 mois et demi, 5 mois, vraiment.
Voilà, t'as accouché en quoi, une demi-heure?
Non, quand même pas. Non, justement, ben là, j'ai pas perdu les os. Okay. Par contre, j'ai commencé à avoir des contractions. Et pour nous, c'était tout nouveau de compter les contractions. Le truc où tu t'amuses à compter. Et puis, ben, pareil, je crois que moi, j'aurais pu rester encore quelques heures à la maison. Et puis, David, je voyais que ça le stressait.
Okay.
Et du coup, je préfère, pour que ça aille bien, ben, de dire, OK, ben, c'est bon, je suis prête, on peut y aller. Du coup, ben voilà quoi, on passe la nuit quand même là-bas parce qu'on nous dit « Ouais, vous pouvez rentrer si vous voulez, vous reposer et tout. » Puis je me dis « Non, mais en fait, ouais, on est là.
Ouais, »
Ça, on était sûr d'avoir la salle d'accouchement. Enfin, bref.
C'est clair.
Et, ben, au matin, merveilleuse surprise après 3 sages-femmes différentes. Et la sage-femme, avant qu'elle parte de sa nuit, elle vient me voir, puis elle me dit, ben voilà, ma collègue va bientôt arriver, etc. Comment ça va? Qu'est-ce que je lui dis? Et puis je dis, non, mais en fait, j'en peux plus. Je suis
au bout
de ma
vie.
J'arrive presque, j'avais les jambes qui tremblaient, puis je voulais absolument rester debout pour bouger, pour... Enfin, bref. Et là, grande surprise, c'est la sage-femme qui m'a accouchée de Léo qui apparaît. Et elle sentait tellement bon, c'était un cadeau du ciel vraiment à ce moment-là. Et elle me dit, mais j'ai lu votre demande, vous aimeriez faire un bain, vous voulez pas aller dans le bain? Puis je dis, ouais, mais j'étais déjà et tout. Puis elle me dit, ouais, mais là, je vous mets des petites huiles essentielles et tout. Et ouais, je sais pas, mais elle a su
mis dans
faire,
un cocon,
en fait.
Quoi.
Ouais, elle a su me remobiliser. Et puis, après, dans le bain, c'était magique, ouais. Quoi. Je crois pas quasiment 2 heures. Et puis, ça a commencé vers, je crois, 6 heures du matin. Et puis, à 8h30, il était là.
Ok.
Donc, c'était quand même aussi, aussi court.
Bon. Ouais. Et comment ça se passe, la vie avec 3 enfants et donc à 5?
Alors, bon, je trouve que l'avantage, c'est que Léo, il est quand même, il a toujours eu cette posture de grand frère qu'il a incarné d'une vue, même si parfois, par moment, il se dit, j'en ai marre.
Ouais.
Et c'était très flagrant aussi là. Très vite, je pouvais, si mon mari n'était pas dans les parages, que j'avais un enfant au sein, l'autre à côté de moi, en lui racontant une histoire. « Ah, tu peux vite aller me chercher ma bouteille d'eau, j'ai oublié. »
Il avait 5 ans, 6 ans presque.
Il avait juste 5 ans.
Ok.
Donc, 4 ans et demi même, il allait avoir 5 ans. Mais donc, il était quand même, ça lui faisait plaisir de me faire plaisir. Il se mettait à côté de moi. Il allaitait ses bébés. Enfin, vraiment, c'était assez chou. Et puis, le truc aussi auquel on pense pas forcément, c'est que t'as aussi ce côté où tu dois moins peut-être les inclure, justement, parce que à deux, Léo et Noah jouent très bien ensemble.
Ouais, ouais. Donc, il y avait ça aussi.
Ouais.
Et du coup, comment Noah, il prend la naissance de Milo?
Alors, Noah... En fait, ça va. Après, ce qui était dur pour lui, c'est de voir que maman, elle a moins de temps pour lui. Mais très vite, je crois qu'on s'adapte aussi. Okay. Pareil, en fait. On suit ce mouvement de vie. Et puis, quand Noah a besoin, parce que je lui ai toujours proposé vraiment mes bras.
Mm-hmm.
Et quand il était petit, ça marche. Les 3 premières années, ça marchait vraiment super bien. Maintenant, parfois, il dit non, je veux plus tes bras, je veux être seule dans ma chambre. Ou il me demande une musique et puis il écoute une musique. Mais c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné, puis on s'est adapté.
Ok.
Donc voilà, ce qui est devenu plus difficile après pour lui, c'est quand Milo a commencé à jouer aussi avec des jouets, vraiment. Ouais. Et c'est vraiment l'enfant du milieu, je crois que c'est assez caractéristique aussi. Il savait très bien jouer avec Léo, il savait très bien jouer avec Milo, mais en même temps, t'avais l'impression qu'il était perdu. Donc il y avait ça qui n'était pas forcément évident à gérer pour lui. Et puis, très vite, on lui a dit aussi, ma maman, je crois que c'est l'initiatrice de tout ça, qui lui a dit en premier, mais tu sais, en fait, t'as trop de la chance. Parce que d'un côté, t'es le grand frère et d'un côté, t'es le petit frère. Mmh. Donc, tu peux te mettre dans le rôle que tu veux finalement quand c'est bon pour toi au
c'est
moment
pas mal
de la journée. J'ai trouvé que c'était très chou. Et effectivement, je trouve que ça fonctionne, quoi. Ça le valorise et puis il adore. Et ce qu'il y a maintenant, c'est que les deux grands ont de la peine à jouer ensemble.
D'accord.
C'est assez compliqué. À 3, par moment, ils arrivent très bien.
Ouais.
Mais c'est pareil. Hein, Léo, Milo, il est trop petit, je ne veux pas faire ce jeu-là avec lui. Enfin bref. Mais ça passe encore. Et puis, Milo, par contre, il arrive super bien à jouer avec les deux.
OK.
Donc voilà.
C'est des phases de vie, hein, comme tu dis.
Tout
de toute façon, les fratries, tu as des phases qui fonctionnent plus que d'autres. Ouais. Certains ensemble à un tel moment, puis après dans une autre phase de vie.
Mm-hmm.
Et puis encore, je pense que jusqu'à adulte et jusqu'à qu'eux-mêmes soient parents, ça va évoluer.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai une question par rapport à tout ça. C'est comment vous, les parents, vous avez tenu le coup pendant toutes ces années avec 3 enfants quand même assez rapprochés et avoir affaire aussi à un problème un peu plus sérieux avec un des enfants. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu des moments de craquage? Le couple, alors, comment il arrive à se retrouver dans tout ça?
Alors oui, on a des moments de craquage, évidemment. Je crois qu'on est aussi assez bien... je dis toujours, le couple, c'est aussi une équipe. Et puis même la famille, je dis aux enfants, on est une équipe. Il faut qu'on fasse nos tâches un peu tous de notre côté. Sinon, la maison, elle ressemble à rien, etc. Enfin, voilà. Mais le couple, clairement, c'est le leader de cette équipe. Et puis, je crois qu'on craque pas en même temps.
Okay.
Donc ça, c'est déjà aussi important.
Mais est-ce que vous avez craqué séparément un peu plus sérieusement que genre juste j'en ai un peu marre ou je suis fatiguée?
Alors,
pas forcément.
Moi, j'ai fait un burn-out l'année passée.
D'accord.
Au printemps l'année passée. Et David, j'arrive pas trop à dire. David a de la peine à se livrer, C'est compliqué. Il a aussi une histoire qui fait que, voilà, j'en parlerai pas ici parce que ça lui appartient, mais qui fait que, voilà, il a peut-être
des il est moins à l'écoute peut-être de sa de
alors je
de
sais pas s'il est moins à l'écoute, mais selon lui il a pas besoin de typique de psychothérapie, il a pas besoin de médecine alternative, il a voilà, il gère avec son foot, avec sa course, et puis voilà. Après
chacun ses ressources, chacun
voilà, on est d'accord, parfois c'est difficile à accepter.
Et mais du coup, t'es aussi venue là pour une raison. Et puis, ben, c'était important aussi qu'on retrace un peu l'histoire de famille, parce qu'il fallait aussi mettre un cadre et puis qu'on comprenne aussi la vie que vous avez menée, les rôles de chacun et puis la place de chacun. Et à quel moment, tu retombes enceinte?
Alors, donc, il faut savoir que pour David, c'est clair qu'il ne veut plus d'enfants. Donc, il me dit clairement que... Ben, il me parle de vasectomie, donc ça, c'est chouette. Je suis donc toujours avec le préservatif. Et finalement, on tombe enceinte sous préservatif. Alors voilà, après, en discutant avec les professionnels, il paraît qu'il y a autant de chances de tomber, voire plus de chances de tomber enceinte sous préservatif que sous pilule. Mais au niveau du pourcentage dans les statistiques suisses, c'est à prendre en compte quand même. Et puis,
Tu penses qu'il a cassé une fois ou...
Mais non, on n'a rien remarqué.
Okay.
Donc non, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a vu. Après, on s'est dit, parce que on a des amis qui fonctionnent, je me retire avant d'éjaculer, et puis où on se dit, waouh, mais si nous on faisait ça, on aurait 15 enfants.
Ouais, c'est clair, pour les gens fertiles, si je peux me permettre un conseil, évitez ça quand même.
Et puis là, on comprend les
moment,
deux pas.
Et à quel moment?
Parce qu'en plus, justement, donc moi, je pense psychologiquement, je fais pas des grossesses nerveuses, mais j'ai un truc où mes cycles se rallongent.
Okay.
Et je fais des cycles de 36-38 jours de sûr. Et où l'année avant, vraiment, je pense que j'ai fait 3 tests de grossesse parce qu'à chaque fois, tu te dis après... Oh, pardon. Après une semaine, tu te dis...
j'ai du retard.
Que,
ouais.
Voilà. Et puis moi, avec cette envie d'avoir un enfant, donc où je me dis...
Donc toi, t'as toujours eu envie d'un quatrième?
Alors, j'ai pas... Je me suis jamais projetée à combien d'enfants.
Okay.
Donc, contrairement à beaucoup de couples ou de femmes, moi, je savais toujours que je voulais des enfants. Au début, tu te dis, mes parents en ont eu 2, donc tu parles de 2. Et puis, tout à coup, il y a le troisième. Et puis après le troisième, dans la baignoire, je me suis dit... dans la baignoire en accouchant de Milo, je me suis dit, quand il est sorti, plus jamais.
Okay.
Mais c'est quand même très vite revenu.
Ok.
Donc,
ça marche. Et donc, on est quand, là, quand tu réalises que tu tombes enceinte?
Donc, on est en 2020.
Ok.
Fin de l'année. Et je réalise que j'ai du retard, une fois de plus. Donc, je lui dis, si jamais sache que j'ai du retard... Un peu comme d'habitude,
ouais,
ces temps.
Pour lui, il devait se dire,
bref, et puis tout à coup, on arrive le 24, non, déjà le 23, je crois. Il me dit, ouais, mais t'as toujours pas, non, toujours pas. Décembre, donc. Et le 24, il revient des commissions, puis il me dit, écoute, je t'ai acheté un test de grossesse. Je lui dis, non, mais je veux pas le faire, tout. Puis après, je me dis, ouais, mais en fait, c'était vraiment enceinte, les fêtes de Noël et tout, l'alcool. Enfin, voilà, j'ai toujours fait très, très attention. Okay. C'était un de mes grands principes pendant mes grossesses. Et là, je me dis, non, mais il faut que je sache, en fait. Donc, le 24 au soir, je passe tout mon alcool à David, assez discrètement, je crois. Et puis, le 25, je fais ce test le matin. Et il s'avère qu'il est positif. Donc, grosse douche froide. David, vraiment, il était au bout de sa vie.
Okay.
Vraiment, il a réagi fort. Moi, j'étais perdue, bien évidemment. Mais d'un autre côté, très vite, je me projette quand même. Après, très vite, je me dis, non, mais en fait, la semaine prochaine, le week-end prochain, on part une semaine à Sasfe, en Valais, pour skier. Je suis pas là. Comment je fais? Ma gynécologue est sur... Enfin, bref. Donc, je téléphone au planning familial à Bienne. Et... je demande comment ça se passe. Et là, elle me dit par rapport au délai et tout, donc on calcule. Puis elle me dit, elle me montre, m'expose mes options.
Tes options, ouais.
Et elle me dit, si c'est sans interruption chirurgicale, en fait, c'est jusqu'au 11 janvier que vous pouvez décider. Et là, je me dis non, mais bref, ouais, voilà, ok. On prend quand même un rendez-vous, je crois, juste le dernier jour de l'année, il me semble que c'était le 31. Et on revoit tout. Et là, dans l'explication de toute ma vie, elle me dit quand même, ah ouais, vous avez quand même des antécédents au niveau dépression et tout. Vous avez 3 enfants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir un 4e. Donc, il y a quand même une espèce...
Elle émet quand même un jugement.
Voilà, il y a un jugement, oui, tout à fait.
Sur ta situation ouais.
Que je ne réalise pas, bien évidemment, quand je suis là-bas, parce que je suis dans tous mes états et que je suis paumée. Et après, elle dit, oui, puis après, si vous le gardez, à voir comment ça se passe dans votre couple, et puis il faudra tout de suite vous faire prendre en charge psychologiquement. Je pense que ça partait d'une bonne intention, mais c'était hyper maladroit.
Okay. Et là, il y a David, il est avec toi.
David, il est avec moi. Puis quand elle lui donne la parole, la seule chose qu'il dit, c'est, en fait, légalement, moi, j'ai rien à dire. C'est son corps, c'est son choix. Moi, je suis là parce que c'est aussi mon bébé, mais moi, j'en veux pas, donc voilà. Et bref, on repart de là. On prend quand même rendez-vous le 11 pour éventuellement prendre la première pilule, le Mifegine, pour interrompre la grossesse. Et... Donc, on part en vacances.
Donc, vous partez quand même à ça se fait.
On part quand même à ça se fait. Tout était, les enfants, ils étaient à l'école, les deux grands, à l'école de ski.
Et comment ça se passe avec David ? Vous en parlez ou vous, vous laissez un peu le...
Si, on en parle. On fait des listes de plus, de moins.
Ouais.
Je vois aussi, je me dis, les enfants, est-ce qu'on leur impose ça ? Sachant que, à chaque fois que j'en parlais avec David, c'était, mais en fait, non, moi, je ne veux plus.
Ouais, il était assez clair quand même sur ce que lui,
il était assez clair. Il disait, non, mais en fait, on va souffrir, notre couple, il va en reprendre un coup. Puis je lui dis, mais en fait, si j'avorte, notre couple, il va aussi en prendre un coup.
Donc, tu étais face finalement, à un choix moins.
Oui.
Pour toi.
Pour moi, et puis je crois que David, il réalisait pas forcément ce que ça pouvait impliquer. Et puis je lui ai dit, j'ai dit, mais en fait, si je le garde pas, il y a possibilité qu'on soit plus ensemble, quoi. Qu'un jour, j'en puisse plus.
Ouais. Que tu lui en veilles, en fait.
Si je t'en veux toute la vie, comment on fait, en fait ?
Mm-hmm.
Et il a quand même aussi beaucoup dit, mais et les enfants, et Noah, surtout, et Noah. En fait, regarde comme c'est avec Noah, regarde. Puis,
vous revenez, ça, le 11 arrive.
On revient. Et puis, je me dis, je vais à ce rendez-vous, de toute façon. Je vais à ce rendez-vous, donc j'y vais. Et puis, là, la médecin, en m'écoutant, elle me dit, en fait, je ne vous sens pas.
Ouais.
Je ne vous sens pas. Je vous propose, vous allez marcher 1 heure, vous revenez à midi.
OK.
Et puis, l'hôpital régional à Bienne, il est juste sous la forêt. Donc, on est allé... dans la nature. Et puis, je refais tous les arguments. Je lui dis, mais t'es sûre et tout. Puis, il me redit à chaque fois, il me dit, mais Steph, en fait, c'est toi qui choisis. C'est toi qui as ça en main. Moi, je ne peux pas te dire, garde-le pas ou garde-le. C'est vraiment, bien évidemment que j'en veux pas de cet enfant. Mais je ne peux pas faire ce choix-là. Puis, je lui disais qu'il était lâche, qu'au niveau de ses choix, c'était assez facile de dire ça. Que ça porte tout sur... Enfin, que ce soit moi qui porte tout sur mes épaules.
T'aurais préféré qu'ils te disent « j'en veux pas, maintenant t'avortes, c'est pas une option. » Qu'ils te laissent, finalement.
Ah, on m'a jamais demandé ça.
Je te le demande parce que je suis pas sûre que t'aurais accueilli beaucoup mieux si t'avais imposé un choix.
Ouais.
Là, ils disaient « moi, j'en veux pas, mais ça reste encore.
» Oui. Effectivement. Je sais pas. Peut-être parce que...
On ne peut pas refaire le passé, de toute façon.
On ne peut pas le refaire.
Savoir,
mais
là, tu as eu le sentiment, en fait, de devoir, toi, prendre la décision.
Ouais, voilà.
Ou tu allais payer quoi qu'il arrive derrière.
Okay. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu retournes dans la salle ?
Et du coup, à un moment donné, on a vraiment presque tourné en rond pendant 1 heure. Hein.
Ouais.
Donc, à se refaire tout ce qu'on avait discuté pendant plus d'une semaine. Et là, je lui dis, c'est bon, j'en ai marre. Viens, on y va, je vais avaler cette tablette. Et puis, comme ça, voilà. On arrive chez la médecin, tout. Elle me dit, vous êtes sûre ? Tu dois signer, bien évidemment. Je signe. Et j'avale cette tablette. Et je me souviens, elle me dit, ouais, si jamais vous avez des nausées, dans une heure, vous vomissez, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra revenir prendre une tablette. Elle me donne rendez-vous, elle m'explique tout comment ça va se passer, parce que ben, entre 36 et 48 heures plus tard, tu prends la deuxième tablette qui s'appelle le Cytotec et qui est fait pour ce qu'on appelle vulgairement l'expulsion du bébé. Pour moi, c'est plus un accouchement parce que, en fait, tu as quand même des contractions, même si elles sont moins fortes, mais c'est quand même douloureux, c'est désagréable. Et puis, ben, tu sens quand même ton bébé, même s'il est minuscule, passer, en fait.
D'accord.
Donc, voilà. Elle nous explique tout ça. On rentre à la maison. Et vraiment, sur le chemin, je me dis encore, non, mais je vais me faire vomir. Moi qui... justement, et souffert de migraines pendant des années, on m'a toujours dit, vas-y, mets-toi le doigt dans la gorge. Je n'ai jamais réussi à me faire vomir. Ouais. Je déteste vomir et je me disais, non, mais bref.
Okay.
Donc,
t'étais pas complètement en accord avec ce que tu faisais, quoi.
Non. T'as tout ce cheminement-là où je me dis, ah ouais, ben va vomir. Après, ben, bien sûr, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas essayé. Et puis, bon, on avait tout prévu. Hein. Donc, les enfants n'étaient pas là tout l'après-midi. Et nos parents étaient au courant. Et en rentrant, ben je me couche dans le lit, j'essaye de dormir, voilà. Et dans la nuit, bon, c'est assez flippant en fait, parce que tu prends quelque chose et tu sais pas comment ça va fonctionner, ce que ça va faire sur ton corps. Donc le moindre signe, tu te dis ah, alarme.
T'en alerte, quoi. Ouais.
Ouais. Enfin, en tout cas,
mais les enfants, ils étaient de nouveau là à ce moment-là.
Les enfants, ils étaient de nouveau là. Et puis, ah oui, le soir, c'est vrai. Le soir, ben, je pleurais. Genre. Enfin, j'étais juste au... Pour moi, c'était la chute, quoi.
Et tu leur disais quoi aux enfants?
Et on s'était mis d'accord que pour moi, c'était trop violent. Enfin, on s'est mis d'accord. Donc, pour nous, c'était trop violent de leur dire qu'on avait avorté. Surtout qu'on savait que de sur Léo, peut-être même Noah, allait nous dire oui, c'est quoi avorter. Et puis d'expliquer, on a choisi de tuer un enfant. Enfin, ouais, pour nous, c'était trop. Ouais. Donc, on a juste dit que maman, elle a perdu un bébé. Et c'est ce qu'on a dit, en fait, à notre entourage. Parce que, faut savoir qu'il y a une honte qui est juste énorme parce que je pense aussi qu'il y a encore tellement de tabous que tu te sens juste pas à te dire « Ah oui, ben, moi, j'ai fait le choix d'avorter et j'assume. » Donc, cette honte, elle m'a vraiment...
T'as suivi, hein.
Elle m'a suivi longtemps. Et puis, David, très vite, m'a dit... Parce que je lui disais aussi « Mais moi, je veux pas que nos amis sachent que t'as fait, ça, que tu m'as imposé ça. » Pour moi, c'était m'imposer quelque chose.
C'était pour le protéger ou c'était pour...
Alors, ben, c'était
par pudeur pour toi.
Le protéger et aussi parce que je savais qu'à certains amis, je leur disais, ils m'auraient dit, ouais, mais tu te rends compte, moi, mon mec, il n'aurait jamais fait... Enfin, tu vois, ce genre de
T'avais pas envie d'être confrontation j'avais pas comme envie. Ça.
Et puis, il m'a très vite dit, mais en fait, on s'en fiche de moi. Fais juste ce qui est juste pour toi. Donc, si tu as envie de le dire à tes amis, tu le dis. Et puis... voilà qu'elle pense que je suis le plus gros connard du monde, ben, au final, on s'en fiche.
Il a raison.
Il a raison, mais j'ai quand même pas réussi.
D'accord.
Et puis, maintenant, je commence. Mais ouais, tu vois, ça a pris du temps. On est en 2020,
là, ça devient officiel. Aujourd'hui, là, ça devient officiel quand même.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe les semaines qui suivent, les mois qui suivent?
Les semaines suivantes... donc, le 13, donc je retourne, c'est encore en ambulatoire, à l'hôpital. Donc ça m'a aussi pesé d'aller à l'hôpital.
Là-bas,
Alors heureusement, je n'étais pas en maternité, comme je sais que c'est le cas pour certaines femmes qui sont passées par là, où tu te retrouves dans la même chambre qu'une maman qui a un bébé à côté de toi, c'est juste horrible. Donc là, non, j'étais juste en gynécologie chirurgicale. Ouais. Et du coup, j'ai eu un réflexe à l'hôpital. C'est allé aussi très vite,
parce
je pense, parce que mon corps travaille
bien. Pour
accoucher, accoucher, expulser le bébé.
D'accord.
Et du coup, là, pareil, David a pris congé, il est venu avec moi, donc il était quand même présent, même si, voilà. Et il y a un truc où j'ai vraiment eu l'instinct, c'est de dire aux sages-femmes et à la médecin, j'ai dit, en fait, j'aimerais récupérer le bébé.
D'accord.
Et ça, c'est aussi quelque chose... Pourtant, j'avais encore rien lu, j'avais encore rien, mais je sais maintenant qu'il y a tellement de femmes qui regrettent quand elles savent que, ben voilà, tout à coup, il va sortir, elles se mettent sur les toilettes et il part, en fait, dans les canalisations. Donc, je savais ça. Et puis, ben voilà, comme mon corps a toujours bien fonctionné dans ces moments-là, Il a aussi très bien fonctionné dans ce moment-là. Mm-hmm. Et le bébé, il est sorti entier. Puis quand elle est venue, parce que ben, bien sûr, il y a la vérification médicale, elle me dit waouh, là l'émotion va commencer. Elle me dit waouh, votre bébé, il est magnifique, il est entier. C'est pas toujours le cas. Et on voyait vraiment un fœtus, en fait. Un tout petit.
Un mini fœtus.
Avec le placenta, tu voyais même le placenta, qui était aussi minuscule, d'ailleurs. Et puis, ben pour moi, c'était clair qu'il fallait que je lui dise au revoir, en fait, qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a expliqué aux enfants. Mm-hmm. Moi, je leur ai dit que c'était important pour moi de lui donner un nom. Mm-hmm. Donc, on est rentré, je l'ai mis dans une petite boîte mm-hmm. avec de la lavande, des mm-hmm. herbes.
Tu veux nous dire comment tu l'as appelé ?
On a choisi la boîte aussi ensemble. Mm-hmm. Et puis, ouais, justement, on l'a appelé Colin parce que c'est, en fait, c'est Léo.
T'inquiète pas, prends le temps.
C'est Léo qui a proposé de choisir un prénom qui commence par... enfin, qui a de nos lettres, de nos prénoms, d'accord. dans son prénom. De chacun, donc des cinq. Et puis, on est tombé sur Colin, parce qu'en plus, il fallait que ça nous plaise à tous. Ouais. Mais c'était quand même assez rapide. Et puis, au final, je crois que c'est un merveilleux prénom.
Oui.
Donc oui, on a souhaité... dire au revoir à Colin. Mm-hmm. Et c'est moi qui ai préparé en fait la cérémonie parce que David, il était présent mais quand même finalement assez démuni face à ma détresse. Donc il s'occupait beaucoup des enfants. Mm-hmm. Moi j'ai beaucoup passé de temps dans la nature à aller me promener. Une copine elle me disait mais va crier, puis j'arrivais tellement pas à crier tout ce que j'avais envie de sortir. J'avais envie de le planter avec une plante, en fait. Donc, on a choisi un joli pot, une plante, et puis on l'a enterré. Et on est allé à l'endroit, alors pas même pareil, enfin, on a juste fait les photos de mariage, là, mais pour moi, c'était important de le faire à un endroit où, en fait, on est...
Symbolique.
Voilà, un endroit symbolique où on a vécu des choses heureuses. Enfin, voilà. Voilà, quoi, en fait. On a ramené notre petit pot à la maison, grand pot. Et puis, pour moi, c'était aussi toujours clair qu'un jour, on aurait une maison avec un jardin, puis qu'on planterait ce pot là-bas. Ouais. Voilà. Donc, après, les semaines, elles passent, effectivement. Et puis, j'ai pas mal d'angoisse, style arriver au travail. Tout à coup, t'es prise d'angoisse, tu sais pas. Comment tu vas faire pour entrer dans le collège alors que je suis vraiment quelqu'un qui est qui a toujours eu un très très bon lien avec tout le monde et puis
t'avais des
donc
petits
signes, vis ça quand même de manière assez intense et puis en même temps je sais qu'il faut que j'avance mm-hmm. que ce soit pour mes enfants mais après coup bien des mois après je réalise que c'est aussi important pour moi après, tu vis donc vraiment comme un postpartum de grossesse. Mm-hmm. Donc, tu as vraiment aussi...
ton corps qui doit se remettre émotionnellement.
Voilà, tu perds du sang pendant plusieurs semaines. Ouais. Et puis après, vient la première fois où j'ai de nouveau mes règles. Et puis où c'est juste horrible. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, les règles, c'est quelque chose de... je vis très, très mal.
T'as associé à une souffrance.
Je l'associe au fait que je suis pas enceinte.
D'accord.
En fait. Donc l'envie de bébé est toujours là, d'accord. C'est toujours viscéral parce que ça a toujours été vraiment dans mes tripes. Mm-hmm. Cette envie-là petit à petit j'avais commencé début 2019 avec des cercles de femmes, participer à des cercles de femmes et en fait, j'ai remarqué que ça me faisait du bien. Et puis, l'ami qui fait ces cercles de femmes a proposé plein de choses, plein de variantes. Et puis aussi, par exemple, une formation pour devenir facilitatrice de cercle. Donc, j'ai suivi quasiment tous ces programmes. Il y avait un programme aussi pour les mamans, principalement, pour voilà, comment elles vivent ça, qu'elles fassent plus appel à leur instinct. Et puis moi, tous ces programmes, en fait, je les ai utilisés pour juste avancer un pas après l'autre, pour en partie digérer ce que j'avais vécu, et en partie, et ça c'est la plus grosse partie, et c'est ce qui est le plus difficile, en tout cas dans mon expérience, c'était de plus culpabiliser, de plus avoir honte, d'arriver à en parler, de le nommer, de... Voilà, tous ces petits pas qui finalement...
Reconstruction aussi.
Voilà, de reconstruction, et puis qui ont pris du temps. Et puis, ce printemps, j'ai réussi à me pardonner. Donc ça, c'était un grand pas, déjà, pour moi. J'ai toujours pas réussi à pardonner à David, par contre.
Du coup, qu'est-ce qu'il en est avec David ?
Alors, notre couple, voilà, on essaye de le nourrir. Hein. Tu demandais comment on tient aussi avec 3 enfants, avec tout ce qu'on vit. De le nourrir dans le sens où on essaye de se donner des petits rendez-vous dans la semaine pour aussi se retrouver le soir quand les enfants sont couchés, même si c'est que pour parfois... J'adore faire ça, et vraiment ça nous recentre, juste faire du pot à pot. Je trouve que voilà, c'est un conseil que je donne, ça fait vraiment aussi du bien à nous adultes.
Juste être allongé l'un contre l'autre.
C'est pas qu'un truc à faire avec ton bébé quand il vient de naître. Ouais. Et oui, et surtout sans sexe, c'est aussi bon en fait.
Des fois juste avoir le câlin.
Ouais. Juste être là, présent. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on essaye. Alors il y a des périodes où ça va très bien, il y a des périodes où ça va moins bien, que ce soit par nos engagements dans nos vies respectives, nos vies de parents et puis d'hommes et femmes. Et il y a des moments où ça va très bien. Et ce qu'on fait, c'est minimum 1 à 2 week-ends par année où on se retrouve seul, sans enfant. Et ça c'est aussi quelque chose auquel on tient. Et vraiment, moi, je me dis toujours, tant que tu sais que sans enfant, ça va bien, qu'on retrouve cette complicité, ces rires, voilà, les limites, les conneries que tu peux revivre ou imaginer à faire avec ton partenaire sans enfant, c'est en fait que c'est bon, en fait, on est sur la bonne voie. Mais voilà, il y a tout le quotidien qui fait que quand...
C'est difficile,
typique,
quotidien.
Des petites phrases où il me dit « je ferai tout pour toi, je serai toujours là pour toi », j'ai juste envie de lui lancer ses paroles à la figure, puis de lui dire « non, mais en fait, non, c'est pas vrai, il y a eu ça, quoi ». Et puis,
Est-ce que tu crois que tu arriveras à lui pardonner un jour ?
Je sais pas. Moi, je pensais que j'arriverais pas à me pardonner.
Comme quoi.
Donc, et je pensais que ce serait le plus difficile, en fait. Mm-hmm. Et c'est venu en premier. Donc, je me dis...
Tu laisses la porte.
Pourquoi pas, oui. Parce que s'il y a une certitude que j'ai actuellement, c'est que, clairement, si j'avais été accompagnée autrement, je pense que j'aurais pas avorté. Puis, voilà.
D'accord.
Cet enfant, il aurait plus de 2 ans maintenant. Et puis, on serait 4. Mais l'autre certitude que j'ai, c'est aussi que... Je sais que c'était pas le bon moment. Et ça, je l'entends. Je sais que David, il me l'a répété maintes fois. Et pour Noah, ça aurait été un cataclysme. Mm-hmm. Et qu'au final, c'était le bon moment.
T'as protégé
Choisir, voilà. De choisir, en fait, mon clan plutôt que mon bébé, en fait.
Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as... accepter que tu n'aurais pas d'autres enfants, ou est-ce que tu...
Non, toujours pas. J'ai 41 ans et puis c'est ce que je disais à David. J'ai dit, écoute, j'arrive pas encore, quoi. C'est pas encore... c'est quelque chose qui prend du temps. Et puis moi, je pense qu'avec ce que j'ai vécu, je peux pas dire si j'y arriverai. Je peux pas dire si un jour je serai en paix avec ça. Je l'espère, et je vais travailler et avancer dans ce sens-là.
Dans ce sens. T'as déjà fait un énorme travail, tu
te
rends compte quand même.
Non, justement, parfois, les copines, elles me disent « Waouh, Steph, tu te rends compte comme t'as fait... »
Et juste là, à t'écouter, je trouve que quand on voit la Steph du début et la Steph d'après, du travail effectué, tu te dis « J'ai réussi à me pardonner ». Je veux dire, rien que ça, c'est quelque chose de super fort d'avoir aussi voulu venir ici aujourd'hui pour pouvoir raconter ton histoire alors que tu avais honte d'avoir pris la décision d'avorter. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu es à mon micro en sachant que ben, les gens vont écouter en disant ben, voilà, j'avais honte, mais là, je me suis pardonnée et genre, c'est OK.
Ouais.
C'est OK.
Ouais.
C'est quand même énorme ce travail.
Oui. Oui, ça c'est vrai. Et je pense que de faire ce travail-là avec toi maintenant, actuellement, effectivement, je crois que j'étais d'ailleurs plus stressée hier soir que ce matin. Ce que j'ai aussi appris en fait à travers tout ça, au fait de finalement m'écouter, chose que ben, voilà, je souhaite à toute personne de pouvoir faire et qu'elle reçoive cette éducation en fait depuis toute petite, c'est de pouvoir s'écouter. De pouvoir se placer en premier, chose que beaucoup de gens ne comprennent pas encore.
Non, puis ma mère me dit que les mamans, égoïste. De manière générale, ont beaucoup de peine avec
voilà.
ça.
Mais, et ma maman me dit, mais t'es égoïste, tu peux pas. Moi, je me suis jamais mise en premier, je ne peux pas. Et puis quand je lui dis, mais si tu peux, elle me dit, non, c'est égoïste, c'est pas possible, on ne peut pas. Donc, il y a vraiment aussi ces schémas qui sont reproduits de génération en génération et j'espère vraiment qu'on arrive à déconstruire ça. Je le fais avec mes garçons. Alors, voilà, apparemment, j'aurai pas de filles, mais c'est comme ça. Peut-être que je le ferai un jour avec mes belles-filles, qui sait. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial de s'écouter. À finalement prendre le pouvoir de ma vie
et décider
en fait ce qui est juste ou pas
pour ma toi vie. Et pour ta femme.
Donc voilà, tout à fait. Bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde en fait.
Bah, et c'est ce que je peux que acquiescer tout ça parce que je crois que en fait, on doit être aussi un peu égoïste pour pouvoir s'en sortir, surtout dans une vie à 1000 à l'heure comme on a avec des enfants. Mm-hmm. Et donc, je pense que tu as fait un super chemin, enfin, tu as fait un grand chemin. Et moi, je te remercie d'être venue pour raconter ton histoire, pour avoir osé mettre des mots sur ce que tu avais vécu, ce que vous avez vécu dans la famille. Et je suis sûre que tu vas réussir à tourner cette expérience et en retirer du positif et à créer quelque chose derrière, parce que souvent, c'est dans la souffrance qu'après, on crée des belles choses.
Oui.
Merci, Steph.
Merci à toi, Naïl.
Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.